Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, nous sommes mardi matin et je vais passer la parole à Frédéric Gournet, l'auteur de Métaphysique du rock, qui va nous présenter notre invité de ce matin. À toi, Frédéric.
Merci Yves. Oui, aujourd'hui on a le plaisir et l'honneur, le privilège de recevoir Rodolphe Burger. Pour un album qui vient de sortir, qui s'appelle Mademoiselle, avec deux autres musiciens dont on reparlera tout à l'heure. Alors, on ne présente plus Rodolphe Burger, je pense, hein, parce que c'est peut-être le plus grand musicien français, après la disparition de Bachung, la mort de Christophe, l'éclipse totale de Bertrand Cantat. En tout cas, le plus grand voyageur du rock, je l'ai lu quelque part, je crois que c'était dans Télérama, donc c'est une belle expression. Donc on ne le présente plus, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bah c'est peut-être l'occasion. Et je me suis surpris à envier ces personnes qui ne te connaissaient pas. J'étais presque jaloux d'eux parce que je me disais que devant eux s'ouvrait une grande discographie, un univers conséquent, très varié. Donc, bonjour Rodolphe Burger.
Bonjour, bonjour.
Alors, quand on essaie de tracer ta généalogie... on est vite troublé par le fait que rien n'est vraiment évident. Dans le sens, tu es né à Colmar, mais ta jeunesse se passe à Sainte-Marie-aux-Mines. Tu n'es pas vraiment alsacien, tu n'es pas vraiment welsh. Ta grand-mère était allemande, je crois. Tu es né dans un milieu privilégié, mais c'est dans un bassin ouvrier, du textile et du bois. Tu es dans un pays catholique, mais c'est une région protestante. Et dans ce protestantisme-là, tu es minoritaire parce que c'est des luthériens et non pas des calvinistes. C'est l'inverse, c'est des calvinistes et c'est pas des luthériens qui sont majoritaires dans la minorité.
C'est ça.
Et tu es entre la France et l'Allemagne. Alors cet entre-deux, est-ce que c'est pas de cela qu'est venu un certain sentiment d'étrangeté par rapport à ton pays, ta région, ton milieu, ta famille, peut-être à toi-même ?
Oui, c'est... C'est une hypothèse. Oui, c'est intéressant. Mais c'est quelque chose dont je me suis aperçu peut-être assez tardivement. J'en avais pas vraiment conscience. Mais c'est vrai que, à la réflexion, ça a dû jouer. Ça a dû jouer. Il y a la question de la langue. Même si dans ma petite ville de Sainte-Marie-aux-Mines, bien que située en Alsace, on ne parlait pas vraiment alsacien. Il y a quand même en Alsace, de manière générale, une espèce d'embarras avec la langue. C'est quand même un pays qui a été, enfin, une région qui a été ballottée et qui est passée d'une langue à une autre, d'un pays, d'une nation à une autre. Moi, l'Alsacien qui fait toujours référence pour moi, qui est une sorte d'Alsacien éminent, qui est justement un penseur de la non-appartenance, quoi, qui était quelqu'un de radicalement allergique à toute espèce de patriotisme, nationalisme, appartenance. C'est Tommy Ungerer, hein, le grand dessinateur alsacien, qui parle très très bien de ça. Lui, il a vécu la guerre, il a vécu cette obligation du jour au lendemain pour un enfant. Je crois qu'il avait un peu plus de 10 ans, je pense, au moment de l'annexion. Tout d'un coup, interdiction totale de parler français. Après, c'est interdiction totale de parler allemand. Ça crée quand même une espèce d'embarras, pour le moins, si ce n'est pas une schizophrénie. Quoi. Et donc, ça, dans le meilleur des cas, ça produit des Tommy Ungerer, c'est-à-dire des grands voyageurs. Lui, il part tout de suite, il fait la route, il part. Et en même temps, il revient. Donc, c'est assez...
Et toi, tu parles en fait du Rhin, qui dit que c'est une zone de passage finalement. Ouais. Est-ce que le Rhin t'a rendu héraclitéen quelque part ?
Oui, c'est vrai que tout d'un coup, je me suis inventé ou reconnu, je ne sais pas, une certaine identité rhénane. Et ça m'est venu vraiment sur le tas. À la fois, je me souviens quand ça m'a frappé, c'est quand j'ai rencontré un Rhénan magnifique que j'admire beaucoup, qui s'appelle Christophe Marthaler, qui est un metteur en scène suisse-allemand, tout à fait suisse-allemand, bon, très grand metteur en scène, mais une sorte de survivance aujourd'hui d'un dadaïsme zurichois, quoi. Il est né à Berne et tout ça, mais quand on s'est rencontrés, c'était à Avignon en 2010, il m'a dit, toi tu es rhénan, comme ça.
Avant même que tu aies parlé, juste la tête.
Voilà, et après évidemment ça s'est confirmé en parlant, puis on partage une passion pour la ville de Bâle. Je trouve que j'ai vécu un peu à Bâle, et je me suis senti vraiment chez moi à Bâle, bizarrement. plus même qu'à Strasbourg. Donc là, tout d'un coup, je me suis mis à me dire que oui, il y avait peut-être quelque chose quand même de vrai, non ? Bon, évidemment, il y a la culture rhénane, il y a une histoire intéressante. On évoquait tout à l'heure, hors antenne, Jean-Damien Collin, un ami de Colmar. On s'est mis, pour s'amuser, à faire une carte de la région rhénane et à positionner des groupes de rock, ou pas que de rock, hein, d'électro aussi bien, etc. Et aussi des grands inventeurs d'appareils techniques, de la guitare électrique, Grickenbacker, tout ça, les noms, c'est tous des noms allemands ou suisse-allemands souvent. Donc tout d'un coup, on découvre que la région rhénane est une très grande région d'invention et qu'il y a presque une histoire de la musique rhénane à faire, qui est liée aussi à la technologie.
Il y a un écrivain que j'aimais beaucoup, c'est René Hennie.
Oh, René Hennie, voilà.
Quand ça, tu penses à ce genre de personnage, ouais. Et voyageur, et, voilà. Et qui vit en Grèce, et sur une île, etc. Et
oui, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais voilà, tu parles de René Hennie. Pour moi, il est moins connu, donc je le cite pas, parce que les gens ne voient pas forcément qui c'est. Mais quand je parle de Tommy Ungerer, puis pour moi, le deuxième grand Alsacien éminent, c'est René Hennie. Voilà. Absolument.
Et alors, se sentir étranger aux autres et à soi-même, est-ce que ça ne prédestine pas quelque part à la philosophie ? Puisque la philosophie, c'est un peu la discipline où rien ne va de soi.
Oui, non, c'est vrai, c'est certainement. Au rock aussi, d'ailleurs, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on partageait avec Alain. Alain parlait souvent de ce souvenir d'enfance des radios américaines, des bases américaines, en Allemagne, qui diffusaient à la radio, bien sûr, du rock.
Alain Bachoum,
oui.
Merci.
Oui, Bachoum. Il parlait de ça, et là, c'est vraiment un souvenir que je peux partager. De manière générale, quoi, je dirais, on avait notre folklore en Alsace, il est tellement rédhibitoire, tellement impossible à assumer, qu'on se tourne forcément vers l'ailleurs, même si d'ailleurs ce folklore, entre parenthèses, vient d'ailleurs aussi. Hein, il a été figé par les Allemands, et donc c'est vraiment terrible. C'est les harmonies alsaciennes qui annonnent des polkas d'Europe de l'Est de façon scolaire et lourde. Mais donc ça, on ne peut rien faire de ça. Mais du coup, on est porté forcément à s'intéresser à autre chose.
Et du coup, très tôt, tu découvres des groupes aussi allemands. Alors, tu découvres, ouais. J'imagine, Elvis Presley, Dick Cochran, Janet Vincent, tout ça. Mais très vite aussi, j'ai lu quelque part que tu découvres en fait Kraftwerk, ouais. Tu découvres Kahn et Faust, mais bien avant Paris, tu es très jeune.
Absolument, ça c'est aussi quelque chose que rétrospectivement que ça a dû jouer dans un peu ma formation musicale. Quoi. C'est-à-dire que clairement, l'Alsace était une région pour les Allemands. Ça restait un peu une région allemande. En tous les cas, il tournait facilement en Allemagne. La réciproque n'est pas vraie, hein, malheureusement. C'est un de mes grands regrets avec Katonoma. J'ai jamais joué en Allemagne. Je trouve ça assez incroyable. Ah ouais. Ouais. Par contre, les Allemands venaient très souvent jouer chez nous. Et donc, j'ai eu la chance, d'être très tôt, comme ça, en contact avec cette musique quand même extraordinaire.
Très avant-gardiste.
Oui, absolument. Aujourd'hui, on le sait, aujourd'hui, c'est très, très, très prisé.
Il y a des études de musicologie, tout le monde.
Absolument, Cannes, c'est devenu vraiment quelque chose de majeur. Et on sait à quel point aussi les Anglais, à un moment donné, quand étaient-ils à court d'inspiration, Brian Eno, Bowie et compagnie, sont allés là-bas. Hein,
ils sont venus à Berlin,
pour chercher quelque chose de neuf. Mm-hmm. Neuil, le groupe Neuil faisait partie des groupes qui fascinaient beaucoup. Je crois que d'ailleurs Bowie voulait travailler avec Neuil, ça s'est pas fait tout à fait. Mais bon. Donc pourquoi ? Parce que je pense l'avantage entre guillemets des groupes allemands, c'est que ils étaient obligés de faire table rase d'une certaine façon. Ils n'avaient, un peu comme ce que je viens de dire du folklore alsacien, c'est encore plus vrai, évidemment, du folklore, de la musique populaire allemande, qui est des pires qui soient. La variété allemande, ce qu'on appelle la Schlag, c'est vraiment...
Et toujours aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est incroyable. C'est sans doute le peuple le plus mélomane du monde et qui fait la pire merde musicale qui soit. Et donc, ça aussi, ça a dû faire repoussoir. Et bien entendu, après la guerre, il n'était pas question non plus de reprendre simplement une tradition quelconque qu'il fallait inventer. Et donc ça donne une radicalité, disons, générale à ces groupes. Ils ont moins l'appui d'un folklore ou d'une tradition, parce que même la pop anglaise, au fond, est très, très... quand on pense aux Beatles, les voix, etc., on sait bien qu'il y a tout un arrière-plan. Et quand on veut aller chercher quelque chose de vraiment neuf et radical, il faut s'affranchir de ça. Et donc là, les Allemands étaient à l'avant-garde.
Et donc toi, très tôt, tu commences à faire du rock. Tu as cette révélation de la guitare, du son, la distorsion, la saturation. Oui. Et tu as commencé à faire des groupes à 11 ans.
Oui, absolument.
À 11 ans.
Oui, à 11 ans, 71 ans.
Et tu fais des concerts très vite.
Oui.
Et au deuxième concert, tu essaies de reprendre Hey Baby de Jimi Hendrix et tu t'évanouis. C'est vrai ça?
C'est tout à fait vrai. D'accord. Ce n'est pas une fake news, une légende. Non, non, tout à fait.
C'est incroyable.
C'était mon groupe à l'époque était un groupe instrumental, puis j'écoutais énormément Hendrix. Je crois que Hendrix était vraiment le musicien de loin qui me fascinait le plus et que j'écoutais le plus. Et notamment les ballades d'Hendrix. Hein. The Wind Cries Mary, enfin des choses comme ça, voilà. Et donc et puis c'était plus à ma portée aussi en tant que guitariste, parce que j'étais vraiment quand même plus que débutant, autodidacte. Enfin, le premier concert qu'on a fait à 11 ans, je savais à peine jouer. On a fabriqué un répertoire avec les premières notes qu'on a été capable de jouer. Enfin, c'était vraiment à la fois naïf et puis très très révélateur d'une époque. C'est 68 quoi, quand même. Hein. Et donc on y va, on a ce culot d'y aller, de monter sur une scène, etc. Par contre, ma tentative, donc deuxième concert, fête de Noël de la section bûcheronnage du CET, Collège d'enseignement technique de Sainte-Marie-aux-Mines, je tente de chanter Hey Baby, balade de Hendrix, et je m'évanouis immédiatement. Donc. Je me réveille aussitôt.
Hey Baby que tu reprends sur ton dernier album.
Donc, ouais, que je reprends sur l'album.
Mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un morceau magnifique, c'est sublime.
Oui, et je l'avais repris également, j'avais repris déjà sur un album Meteor Show. Sur mon album Meteor Show, reprises. Oui. Il y avait une reprise des Stones, une reprise de Hendrix et une reprise de Dylan. Et donc, voilà, trois icônes, on va dire, musicales des années 70. Et donc, oui, c'est vrai que je reprends Hey Baby régulièrement. Et là, la dernière version, oui, avec Sofiane Saïdi et Diana, ça, c'est vrai que c'est un des morceaux qui a été une très belle surprise de l'enregistrement. On en parlera tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et donc, tu as cette révélation du rock qui un peu remet en cause toutes les catégories musicales. Hein. C'est un peu ça. Le rock, c'est une révolution. Ça chamboule tout. Ouais. Et tu te destines à un moment à la philosophie, qui est aussi une manière de remettre en cause toutes les catégories de la pensée.
Ouais.
Donc, il y a une recherche comme ça de remise en cause assez radicale. Et donc, tu t'engages dans une voie philosophique. Tu fais des études à Mulhouse ou à Strasbourg
d'abord, mais très brièvement. Okay. Je passe une année seulement à Strasbourg. Ensuite, très vite, je vais à Paris.
Et donc tu deviens enseignant et je crois que tu vas à un concert des Rolling Stones. Et là, tu as une révélation, une épiphanie, un truc qui te renvoie en arrière assez violemment.
Oui, c'est un des trucs qui a été décisif. C'est 76, il me semble. Hein, donc,
C'était quelle tournée des Stones?
Alors, c'est une mauvaise tournée, hein, une mauvaise période. Jagger, Spavanet, sur l'espèce de je sais plus. Enfin, il y avait une mise en scène kitschissime. Bon, non, c'était pas bien. Et moi, j'y allais un peu comme ça, déjà, avec la distance du jeune étudiant qui avait un peu de recul par rapport à ses passions adolescentes. Donc, qui écoutait d'autres trucs que le rock. J'écoutais du free jazz, l'art ensemble au Chicago, etc. Mais bon, j'étais quand même allé à ce concert des Stones, en Allemagne, d'ailleurs. Dans un stade où il y avait énormément de GIs encore, et qui jouaient au frisbee, je m'en souviens, etc., et qui attendaient pendant des heures l'arrivée des Stones. Avec le feu d'artifice et compagnie. Et donc, moi, j'étais tout au fond, comme ça. Et je me souviens très bien de l'effet du son de guitare de Keith Richards. C'est-à-dire que j'ai été totalement ventousé, quoi. C'est-à-dire que j'ai traversé la foule jusqu'à être en face de l'ampli pour manger le son, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est ça. Il y a eu ça. Il y a eu plusieurs moments, comme ça, décisifs qui m'ont fait revenir, au fond, à la musique après. Je pensais que c'était une affaire un peu, tu vois, que j'avais fait le tour, quoi. L'histoire du rock, tout ça, c'était...
Ouais, il faut bien que jeunesse se passe.
Voilà. C'est ça. Et puis la fille que tu pensais séduire, finalement, trouve que c'est pas ultra sexy de voir son jeune mec se rouler par terre en faisant les larcènes. C'était un peu ça, quand même.
Et donc, tu montes à ce moment-là, après cette révélation, tu montes Dernière Borne, c'est ça?
Oui,
et qui devient Catonoma.
Oui, tout à fait. Ça, c'est 80, hein, c'est un peu plus tard. Et entre-temps, j'ai eu quelques autres chocs en live, hein, toujours des guitaristes, au fond. Et c'était, bon, voilà, il y a eu ce son de Keith Richards, là, c'était vraiment une matière sonore. Vraiment sorti de l'ampli, à l'époque, il y avait encore beaucoup de son d'ampli. Et après, il y a eu, je me souviens, Albert Collins, bluesman très cold, tout ça. Très, très, très piquant. Chicago blues, mais dur, quoi. Et très beau. Et puis, alors, évidemment, le plus grand moment pour moi, le plus grand souvenir, c'est James Blodelmer, avec qui j'ai eu la chance après de jouer, oui. Et tout. Et lui, vraiment, ça a été dingue. Quoi. Ça a été, vraiment, une révélation. C'est-à-dire, au-delà de... C'était pas juste le son de guitare, etc. C'était vraiment une proposition musicale qui synthétisait tout ce que j'aimais. Tout ce que j'aimais dans un seul son, dans un seul geste, quoi. C'est-à-dire à la fois le rock et même l'attitude punk, enfin, des choses comme ça, une désinvolture incroyable, mais aussi le free, un certain jazz radical, l'Afrique. Enfin, bon, c'était tout à la fois. Et ça, je l'ai vu, oui, ça devait être dans ces années-là, quoi. Enfin, en tout cas, je l'ai vu avec Ornette Coleman, peu de temps avant qu'il soit viré du groupe Primetime. Et bon, la question c'était, oui, comment je reviens
comment tu reviens, comment tu remontes un groupe.
Oui.
Et je crois que quand même tu enseignes et tu cherches parmi tes élèves, est-ce qu'il n'y a pas un bassiste, oui, est-ce qu'il n'y a pas...
Absolument, c'est voilà. Ça, c'est exactement au moment où je commence à enseigner, ce qui n'était pas vraiment prévu au programme, quand j'ai fait de la philo, je l'ai découvert un peu par la bande, j'ai eu cette chance aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas arrivé par un biais scolaire. Comme j'étais un peu un rebelle et un peu rétif à ce qui était scolaire, je faisais autre chose, je faisais de la politique, du rock, et je draguais les filles. Enfin, tu vois, donc mon adolescence n'a pas été une adolescence exemplaire, pas du tout. Hein. J'étais dans la section D, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était les sciences nat, quoi. C'était pas assez bon pour faire section scientifique, mais tu n'avais pas le droit de faire littéraire, parce que c'était un truc de fille, en gros. Dans ma petite ville natale, c'était comme ça qu'on voyait les choses. Je ne savais pas du tout que ça existait, normal sup, hippocampe, 4, tous ces trucs. Pas du tout, j'ai découvert ça après. J'ai fait des pieds et des mains pour raccorder cette filière, parce que juste, je voulais tout d'un coup... c'est une vraie passion, quoi. Passion comparable à celle que j'ai eue pour le rock. C'est juste que c'était tout d'un coup, en termes de, encore une fois, de radicalité, c'est plus fort, quoi. C'était comme... et puis ça m'a ramené quand même aussi à la musique. Je continuais à en écouter, bien sûr, mais je ne pensais jamais en refaire. Et c'est vraiment, j'ai été déterminé tout d'un coup à refaire de la musique. Quand j'ai commencé à enseigner, mais je crois que mon premier salaire, pauvre petit salaire de Metrox en 80... a été je l'ai consacré à l'achat d'une Télécaster. Et puis en effet j'ai posé la question aux élèves, il y en a pas qui jouent, et j'ai recommencé à faire de la musique avec des élèves.
D'accord.
Avec un bassiste.
Et le batteur de Katonoma,
il a raccordé après.
Après, parce que c'est un batteur remarquable. Oui. Moi, son jeu, j'ai toujours trouvé extraordinaire.
Oui, tout à
on
fait.
En a assez peu parlé.
C'est vrai.
Sur le premier album Cupid, sorti en 88, je crois.
Deux
choses m'ont marqué, c'était ta voix,
ouais.
La batterie,
uh-huh.
La guitare.
Uh-huh.
Et il y a quelque chose qui se développe. Alors, je voulais faire écouter, le premier album, un extrait du premier album, Liar ou je sais pas, Full Moon.
Uh-huh.
Mais j'ai préféré choisir un morceau de l'album qui s'appelle Le Désert, enfin le morceau s'appelle Le Désert, c'est Billy the Kid, parce que en fait tu viens de le rééditer en vinyle, c'est ça?
Exactement.
Ok, donc on va écouter un extrait du premier morceau, Le Désert.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Comment?
On parle sans parler. Le ciel est blanc. Les frontières sont floues. Où sommes-nous périls? Nevada, Malakoff. Thank you. tout dans le désert. Mais toi, tu ne bouges pas dans le désert. Le désert est plein de tueurs dans le désert.
Catonoma, le désert, issu de l'album Billy the Kid, qui vient d'être réédité. Alors j'ai choisi ce morceau parce qu'il représentait bien ta démarche, à mon avis, parce que déjà il y a déjà les machines. Tu as fait jouer le batteur par-dessus les machines, un peu contre son gré, à mon avis.
Ah, oui,
voilà.
Oui,
et puis il y a ce fameux chant un peu phrasé, presque un talk over. Non, il faut savoir qu'on était en France, on sortait de Trust et de Téléphone, il y avait les Bérus, il y avait une espèce de punk franchouillard. Paillard, parigo, vraiment pas très intéressant. Et arrivent deux trucs, c'est Noir Désir et Catonoma en même temps, en 87 et 88. Donc, je regarde Noir Désir en 87, Catonoma arrive tout de suite. Est-ce que tu t'attendais à ce succès de Catonoma? Parce que Catonoma a eu beaucoup de succès. Il y avait quand même beaucoup de prix, des ventes conséquentes. Moi, je vous ai vu au Zénith.
Ouais.
Donc, est-ce que tu y attendais?
Non, pas du tout. C'était
pas du tout une démarche.
Au départ, comparable à celle d'un groupe comme ça, tu vois, qui démarre, qui est à la fougue de la jeunesse et qui veut casser la baraque. On était dans tous ce qui nous rassemblait, les membres de Catonoma, c'est qu'on avait eu des expériences précoces. Bon, moi, à l'âge de 11 ans déjà, le batteur aussi. Mais c'était le cas de tous les autres. Et qui ensuite étaient passés à autre chose. Le free jazz, le blues et... Et au fond, ce qui nous rassemblait, c'était l'idée de refaire quelque chose avec le rock, et une envie irrésistible, quoi, d'y retourner, mais évidemment en essayant d'être ni dans une nostalgie, ni dans un second degré. Tu vois. Donc on a tâtonné pas mal entre 80 et 86. C'était des années comme ça, ça s'appelait Dernière Bande, notre groupe. On ne savait pas, au fond. Moi, j'étais très déterminé à refaire quelque chose, mais je ne savais pas si j'étais capable de composer, si c'était une démarche vraiment crédible.
Et si tu allais pouvoir en vivre un jour, tu ne te posais pas la question.
Ah, pas du tout, voilà, c'est des années aussi d'enseignement.
Voilà.
Donc j'étais à cheval sur deux choses, mais on l'a fait de manière très engagée en même temps. Et au fond, Catonoma, c'est juste le moment où ce groupe qui cherchait, qui était entouré dans des formules un peu sophistiquées, un peu trop sophistiquées, avec deux batteries, des cuivres. Et quelquefois, au contraire, c'était tout d'un coup, on faisait un truc ultra minimal, on faisait une reprise des Trogs avec trois accords. Donc, on était comme ça dans ce tâtonnement. Et puis un jour, on s'est dit, on a eu l'impression qu'on avait un son quand même, vraiment. Quasiment naturellement, tu sais, tu allumes l'ampli, le batteur, et bon, voilà, il y a un son, il y a un groupe, et là on s'est dit, ok, on est rentré dans cette démarche de chercher à enregistrer, etc., mais sans savoir du tout si ça allait nous mener. Quoi.
Et ça a duré 17 ans.
Oui.
Et vous avez fait 5 albums studio, plus des lives, plus des hors-série.
Oui, tout à fait.
Et il y a pour moi deux chefs-d'œuvre, donc c'est Cupid, que je réécoute avec énormément de plaisir, et Femme for the Pictures, qui est pour moi monumental, hein, c'est vraiment la pierre angulaire de l'œuvre de Catonoma. Et il y a toujours un travail assez sophistiqué, enfin pas sophistiqué, pardon, un travail assez recherché sur le son. C'est toujours très bien produit, ça soit à tous les niveaux, les guitares évidemment, mais la caisse claire, la grosse caisse. C'est pour toi, c'est important pour toi, le son, c'est fondamental.
Oui, et puis alors, les années Catonoma, ça a été carrément une obsession. C'était vraiment, on était quand même un peu surtout à nos débuts, dans une... dans une, je sais pas, faut appeler, j'ai pas le mot complexe, mais c'était quand même un peu ça, c'était par rapport aux anglo-saxons, à se dire mais putain, comment ils font quoi, et à chercher, oui, à chercher un son quoi, et c'est pour ça d'ailleurs le groupe, c'est vrai, ne sonnait pas français, enfin ressemblait à rien en tout cas.
Bachung a dit quand il a écouté Katoma, oui, la première fois, il a dit je ne savais pas que c'était possible en France.
Oui, c'est ça, exactement. Il nous a rencontrés, il était sur le cul de nous apprendre qu'on était français, en plus d'Alsace,
toute sa région. Ouais. Oui.
Donc, en effet, c'est vrai que ça sonnait pas français. Du coup, c'était quelque chose d'handicapant aussi, hein, par rapport à l'Hexagone. C'est à l'époque des quotas, c'est l'époque de tout ça. C'est en effet ce qui domine, le modèle qui est dominant, c'est le rock dit alternatif.
La Mano Negra, Negras Verde.
Voilà. Bon, il y a en effet Noir Désir, avec qu'on a partagé pas mal de scènes.
C'est vrai.
Eux, c'est alors, je dirais, ils ont pris assez vite la position du groupe français générationnel. Hein, tout d'un coup, tous les ados, et ils avaient cette capacité, cette qualité-là, ou avec Kanta, qui était comme une sorte de porte-voix. Moi, je ne me sentais pas dans ce truc-là, et on ne pouvait pas être ce groupe-là.
C'est clair, oui.
Donc, on était plus dans une démarche qui nous apparentait à des groupes... oui, un des anglo-saxons, que sais-je. Mais le fait d'être français nous handicapait, y compris par rapport à la France. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc ça, en effet, il y a eu un vrai succès qui est lié, au fond, à notre public. On a eu très vite un public formidable qui nous a soutenus. Et pas qu'un public, il y a eu des gens aussi dans les médias. Mais c'est intéressant, parce que c'était toujours des gens qui étaient en marge, ou au bord, qui étaient un peu border.
Oui, ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, il y avait deux... revues et journaux qui auraient dû absolument adorer Katonoma, oui. Et ça ne l'a pas fait du tout. C'est les Inrocks et Libé. Et alors que moi, j'étais fan, je disais les Inrocks, ça m'a appris plein de choses sur la musique, j'ai ouvert plein de groupes. Et quand ils descendent Katonoma, je ne comprends pas, parce qu'il y avait tout pour que ça colle. Libé, c'est pareil, j'ai mangé il n'y a pas longtemps avec Arnaud Vivian, il a descendu le premier album de Katonoma. Je crois qu'il le regrette un peu, en tout cas, il m'a dit salut Rodolphe de ma part, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. c'est votre public, ça ne marche pas. Par contre, ça marche sur M6, France Inter, tout ça. Il y a plein d'autres médias qui font le relais. Mais ça fonctionne, vous passez à la télé.
Oui, c'est ça. Ou avec Françoise Hardy qui nous défendait, ou des trucs comme ça. Et, ou alors, je me souviens, quelqu'un qui, j'ai oublié le nom, qui était à M6, qui a cartonné notre.
C'est Childéric, non ?
Non.
Non, c'était pas lui.
Non, comment s'appelait-il ? Bon,
Laurent Boyer ?
Non, il passait pas à l'antenne.
Ah,
il était programmateur.
D'accord.
Et il s'est fait virer. Il s'est fait virer.
À cause de vous ?
Non, peut-être pas. J'espère pas pour lui. Mais en tout cas, avant de partir. Il nous a diffusé Animals, qui était un clip en plus qu'on a arraché comme ça parce que c'était très compliqué. Je vous raconte pas les détails de cette histoire. C'était quand même une croisade, hein, Katonoma. Faut pas. Il y avait beaucoup d'obstacles, hein, du côté des professionnels de la profession, comme dit Godard, quoi. Et vraiment du côté à la fois maison de disques, médias officiels, etc. Les médias branchés. Donc à chaque fois, c'est des soutiens individuels. Et des gens souvent qui se disaient, si on les aide pas, si on les. Tu vois, c'était Christian Perrault à l'époque d'Actuel. Ils disaient, si on fait pas attention, ils vont passer à la trappe. Donc, du coup, ils exagéraient. Alors, Actuel, en plus, c'était les champions de l'exagération, du dithyrambe. Donc, c'était le meilleur groupe français du monde à Bit Strasbourg, etc. Tu vois. Et du coup, ça nous valait des ennemis. Ça nous a causé des inimitiés du côté des médias branchés dont tu parles. Bon, bref.
Ouais.
On ne va pas refaire l'histoire de ça, mais c'est vrai ce que tu racontes, que notre public, très souvent, était choqué de ça. Puisque c'était notre public, c'était le même qu'un peu, les lecteurs, forcément, des Inrocks, de Libé. Ils ne comprenaient pas du tout, mais que se passe-t-il ? Alors je m'essayais à des analyses sociologiques ou historiques, je parlais de la façon dont le jazz avait été reçu en France, par exemple.
Mais c'était en tout cas pas du tout un groupe marginal. Hein. C'était un groupe reconnu, célébré, qui a eu des prix, de nombreux prix. Alors, ça dure 17 ans, il y a 5 albums. Et au bout d'un moment, tu as laissé tomber Katonoma, entre guillemets, tu t'es lancé dans une carrière solo. Est-ce que tu te sentais trop prisonnier ? Enfin, il y a eu un Katonoma hors série qui s'appelait Cheval Mouvement. Ouais. Ship on the ground. Okay. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti trop emprisonné, trop contraint ou par ce format rock, ou c'est parce que l'histoire était terminée, voilà.
Mais en fait, je n'ai pas laissé tomber Katonoma, très franchement, du tout. C'est vrai que moi et Philippe Poirier, d'ailleurs l'amiral Poirier, de son côté, on a fait, c'est même pas des échappées, c'est-à-dire qu'on a fait, on a créé cette collection qui s'appelait Hors Série. J'ai fait mon premier album solo, Cheval Mouvement, et de son côté, Philippe faisait un album qui s'appelait Les Échardes avec Yves Dormois. En fait, j'avais on était un groupe assez mature, donc donc capable aussi de voilà de tu vois bien Sonic Youth, ils font tous des trucs à côté, ça les empêche pas à certains moments de se retrouver et de rester Sonic Youth. Mmh. Donc moi je voyais assez un destin comme ça pour Katonoma. Il y avait c'était donc je pensais pas en faisant Cheval Mouvement par exemple que ça allait, et d'ailleurs de fait ça a pas mis fin la carrière de Katonoma. C'est juste que j'ai eu besoin à un moment donné, ça c'est vrai, de zoomer, disons, essentiellement pour des questions d'écriture et de texte. C'est-à-dire que, malgré tout, quand on est dans un groupe, on est le porte-parole du groupe. Et donc, on n'est pas complètement libre de sa parole, voilà, tout simplement. Parce qu'on représente les autres, même inconsciemment. Mmh. On tient compte donc, de celui-là qui pense comme ci, comme ça. Il y en avait un qui n'aimait pas que je chante en anglais, l'autre, c'est le contraire. Il n'aimait pas que je chante en français, qu'est-ce que tu fais.
Mais c'est là que tu révèles que pour toi, ça a toujours été un groupe. Ce n'était pas juste Rodolphe Burger avec ses musiciens.
Bien sûr.
L'histoire du rock, je vais citer à nouveau Arnaud Vivian, qui cherchait une définition du rock, on s'est disputé là-dessus. Oui. Et lui, il y a un truc intéressant, il dit le rock, c'est le groupe. Oui. Parce que dans le jazz, finalement, c'était un leader avec des accompagnateurs. En classique, c'est un chef d'orchestre avec des musiciens qui exécutent. Et dans le rock, d'un coup, il se passe quelque chose entre musiciens. C'est une entité, on le sait bien, le mystère des Stones et Beatles, ce n'est pas la somme de quatre individus, c'est beaucoup plus que ça. Donc, resté quand même dans ce groupe, mais arrive Météor Show, on est juste avant 2000, à l'aube des années 2000, arrive cet album, on va écouter un extrait, et puis après on reparle de ce premier album, c'est Unlimited Marriage.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Des lèvres fines et souples comme les branches du saule. A-t-il osé dire, il le croyait, il l'a cru. Tu es fort comme le taureau, et tu excelles en exclamation. A-t-il osé proférer, il le croyait.
Allegre FM 93.1 en présence de Rodolphe Burger avec Enrico Mastrio Giovanni derrière la vitre. On vient d'écouter un morceau de Météor Show, donc c'est extrait de ton premier album solo. Pour moi, cet album a été vraiment très important parce qu'il y a un son incroyable et il y a surtout un virage un peu hip-hop, un peu musique nouvelle, contemporaine. ça a été fait avec Dr. L.
Ouais, ouais.
Tu peux nous parler de cette rencontre? Parce que Dr. L, il paraît qu'il a été batteur de Taxi Girl.
Oui.
Ouais. Et il a été surtout producteur de hip-hop Assassin, oui, des albums d'Assassin. Surtout, parce qu'on pense qu'il n'y avait que deux groupes de rap en France, c'était NTM et IAM, mais il y avait un troisième, c'est
Absolument.
Assassin. Le son était dément sur les albums d'Assassin.
Et il en était responsable.
Voilà, c'était Dr. L qui était derrière. Donc comment tu l'as rencontré? Comment s'est passée votre collaboration?
Alors, je suis allé le voir à cause d'Assassin, moi. Hein. Et au départ, je suis allé le trouver pour un remix d'un morceau de Cataloma. John and Mary. Et là, je rencontrais un docteur, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé.
Enfin, oui. Bon, tu as joué avec lui à la Cité de la Musique
Oui, oui, voilà. Oui. Et bon, voilà, c'était le docteur L, Liam Farrell, irlandais, assez arrogant, je dois bien le dire. Donc, il était là en costume hip-hop, il revenait de Los Angeles. Enfin, il prend un peu de haut. Le son de Cataloma, nous, on était très fiers de notre son. ICP, tu vois, on travaillait avec des belles acoustiques. Il dit, l'acoustique, j'en ai rien à foutre. L'acoustique, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est le signal, c'est l'impact. Enfin bon, tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui est dans une autre approche, qui est celle du hip-hop, qui est quand même une approche vraiment musicale et de son. C'est vraiment un sorcier, le mec. Hein. C'est incroyable. Ouais. J'ai rarement rencontré un type aussi brillant.
Même son album solo, Temple on Every Street, il est incroyable. Ah, il vieillit super bien, on l'écoute sans problème. On croit que c'est produit hier.
Le son est incroyable. Ouais. Après, je pense que, en toute amitié, je pense que quelquefois, il gagnerait à avoir auprès de lui un réalisateur comme il peut être avec les artistes avec lesquels il travaille. C'est-à-dire qu'il y a un peu de complaisance avec lui, certaines fois, musicalement. Alors c'est terrible, c'est très difficile de travailler avec lui. Hein,
et donc toi, quand tu travailles avec lui, tu amènes tes morceaux, ils sont finis ou pas
Alors, je suis allé vers lui à petits pas, je sais pas. Bon, on a fait des choses ensemble qui ont scellé un peu aussi notre amitié et notre collaboration artistique. Et notamment, il y a eu un grand moment, on a fait un tract qui s'appelait Égal Zéro. Contre le Front National. Il y a un truc que j'ai voulu faire à un moment où je trouvais que les rappeurs français ne faisaient pas leur boulot. C'est le moment où le Front National passe au-delà de 10%, l'espace politique français est infecté. Quoi. Et comme il est toujours, cette infection n'a fait que grandir. Et c'est vraiment le moment où ça démarre, cette saloperie. Et du coup, là, je lui ai proposé qu'on fasse un truc qu'on a distribué à, je sais plus, 10 000 exemplaires.
Pendant
la manif anti-FN de Strasbourg. On nous demandait de jouer, on disait non, on ne va pas faire les bignes, oui, anti-machin, non. On demandait interdiction du Front National, ce qui était impossible, mais néanmoins, je pense, défendable. Et voilà, et on a fait ça en une nuit, ensemble. Je suis arrivé avec la maquette et je suis sorti avec le morceau. Et donc ça a été une nuit de main chaude, quoi. Vas-y, je te fais un scratch de Hendrix, je te fais une batterie, je te fais une guitare. Et tout d'un coup, d'être dans le studio vraiment comme... C'était un home studio, mais qui maîtrisait parfaitement. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'est que de... le studio comme instrument, quoi. Réellement,
Comme lieu d'écriture.
Ouais. C'est, on écrit sur la page, directement.
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà.
Et ça a été une découverte. Et donc, je lui ai proposé, je crois qu'après, on a fait Hey Baby, pareil, en une nuit, de la même manière. Et on est allé jusqu'à faire tout un album. En effet, tous mes morceaux existaient. Tous mes morceaux étaient enregistrés en 8 pistes. On a travaillé à partir de ces 8 pistes. J'aurais pu faire un album, je dirais, plus commercial, entre guillemets, c'est certain. Je pense qu'il y avait des chansons là qui auraient pu passer à la
c'était
radio.
Très risqué, très aventureux.
Mais absolument. Je savais en faisant cet album, je l'ai dit à Maison Disque, que je sacrifiais vraiment toute chance de succès, notamment radiophonique, etc. J'ai même des fans un peu à l'ancienne qui comprenaient rien à ce truc.
Après, tu as gagné d'autres personnes aussi.
Et voilà. Et par contre, je savais aussi que on était en train de faire quelque chose de majeur, entre guillemets, c'est-à-dire qui était nouveau. Complètement, et pour nous aussi, quoi. Et lui aussi, on s'est engouffré, ça a été une expérience extraordinaire. Et c'est aussi un moment technique, c'est important. C'est la première fois que Pro Tools, enfin l'ordinateur, peut devenir une machine dans laquelle on enregistre. C'est vraiment cette année-là, donc on sort le Pro Tools qui arrive d'Irlande, dans les cartons, on ouvre le truc, et tout de suite, Liam, il va comme un gosse vers les fonctions les plus abusées. Waouh, on peut faire des dépitches de temps, etc. Donc, on s'est immédiatement emparé de cet outil
de manière, voilà, comme Hendrix s'emparait d'une pédale de disto, quoi. Tout de suite en allant chercher la limite et tout. Et c'est presque un catalogue, ce disque, de ce qu'on peut faire avec des machines à partir d'un matériau analogique. Donc, parce que, par exemple, mes batteries, c'était essentiellement des boucles jungle. C'est moi, la jungle est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré.
Sur le musée, notamment.
Oui, mais tous les morceaux, en fait, même Unlimited Marriage. Non, c'est pas Unlimited Marriage, mais d'autres. Samuel Hall, que j'ai fait à la même époque.
Oui, c'est vrai, avec Bachung.
Bachung, c'est aussi une rythmique jungle. Mm-hmm. Tout d'un coup, la jungle, moi, ça m'a amené un truc. Je dis, si tu divises par deux le tempo, tu te poses là-dessus. Ça nous sortait un peu du binaire habituel. Et donc, j'avais des boucles très simples. Donc, il a copié ces trucs sur plein de pistes pour ensuite arriver à raffiner, compliquer la rythmique. Là, Unlimited Marriage, c'est justement un dépitch, c'est ralenti énormément. Donc
Est-ce qu'il a joué de la batterie sur cet album ou il a juste programmé?
Non, il a même pas programmé.
Ah, et s'il a repris tes batteries?
Il a mixé.
Okay.
C'est vraiment du mix du démix.
Parce qu'il y a un travail de déconstruction.
Mais carrément.
Parce qu'il déstructure les morceaux, il joue sur les silences, les reprises, les arrêts.
Il y a une version, ma version de Moonshiner, que je reprends après avec des guitares et tout ça, mais il est passé au vitriol, quoi. Même ma voix, elle est détruite. Mais. Donc ça aussi, il faut être tout seul pour faire ça. C'est-à-dire, je n'aurais pas pu faire ça avec le groupe.
Ouais, là, tu découvres une liberté incroyable que tu ne pourrais pas avoir en structure normale, classique. Voilà. Ouais.
Autant et donc, le premier, Cheval Mouvement, c'était pour aller chercher quelque chose du côté de l'écriture des textes, plus du côté comme des leaders, tu vois. Là, Météor Show, c'était vraiment dans le son, aller loin, dans une recherche que je pouvais assumer que tout seul. Parce que ça suppose la destruction autant que de la construction.
Et cette liberté, tu ne l'as plus jamais quittée, parce qu'après, tu as fait des choses de plus en plus risquées, de plus en plus libres. Des collaborations incroyables, hein. Tu joues avec plein de gens. Bah, tu as fait quand même beaucoup d'albums solo aussi. Il y a No Sport aussi, je crois. Tu as tout écrit, hein. Les paroles sont de toi.
Oui, pratiquement. Mais pratiquement. C'est aussi avec Doctoral, mais avec une optique complètement inverse.
Ouais.
Il n'y a plus de machine du tout.
J'ai l'impression que tu t'interdis rien maintenant. Tu peux te permettre tout ce que tu veux. Et donc, l'heure avance quand même. Donc, on est là pour parler aussi d'un projet passionnant qui s'appelle Mademoiselle. Donc tu vas nous parler de cet album qui vient de sortir. Il y a eu un concert au Trianon il y a un mois, je crois, avec Mehdi Adab et Sofiane Saïdi. Tu peux nous parler un peu de ce projet de ce...
Ouais, c'est un projet qui me tient à cœur. Parce que c'est je pense que c'est une chance. Hein, des fois, à des moments, c'est des rencontres qui se font. Je suis devenu un peu amateur de ça, des collaborations et tout ça. Mais là, il y a eu vraiment un truc qui s'est trouvé. Sofiane Saïdi, je le connaissais par ouïe dire, c'est Rachid Taha qui me parlait de lui, comme d'un ouïe dire, c'est un putain de chanteur de raï, je ne connaissais pas Rachid. Hein. Donc quand Rachid voulait écouter du bon raï, il allait écouter Sofiane, dans les cabarets et tout ça. Et Sofiane, je l'ai invité à travers le groupe Amar 808, dont j'étais fan, au Festival Rush à Rouen, qui a la bonne idée de proposer à chaque année un artiste de programmer. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés physiquement. C'est-à-dire qu'il est venu me voir, il m'a parlé justement du Couscous Clan qu'il aimait beaucoup, même de Katonoma, parce qu'il avait vécu en Bretagne, il connaissait Katonoma. Enfin, bon, voilà, c'était une rencontre dont on s'est dit, il faudra qu'on t'invite sur le Couscous Clan. Et puis, ça, c'était juste avant le dernier concert du Couscous Clan à Berlin, à Marseille, 15 jours avant la mort de Rachid. Et donc, on s'est revus avec Sofiane à l'enterrement de Rachid. Et notamment à Radio Nova, on a fait une espèce de plateau. Et il parlait de Rachid d'une manière que je pouvais contresigner, quoi. Donc, je ne sais pas, du coup, pour moi, ça s'est imposé qu'il devienne, pas le remplaçant, mais enfin, qu'il vienne chanter dans le Couscous Clan quand on a fait quelques concerts après la mort de Rachid. Ça pouvait être que lui. Et puis, c'est lui, après, qui m'a invité... à la Dynamo de Pantin, où il était résident, pour faire un concert d'un soir avec Mehdi Adab. Alors Mehdi Adab, lui, je le connais depuis longtemps, on a fait beaucoup de choses ensemble avec Eric Marchand, sur mon projet autour de Darwish et tout. Et l'idée était de voir ce qu'on pouvait faire à trois. Et on a fabriqué un répertoire très vite. Une répète et demie, tu vois, en faisant des mash-up un peu de nos propres morceaux.
Est-ce que vous pensiez déjà un hommage à Rachid Taha ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
C'était vous, les trois musiciens, attirés les uns par les autres.
C'est ça. Et le concert était tellement incroyable.
C'était où le premier concert ?
C'était là, la Dynamo.
À Marseille.
Pantin,
Non, Pantin, oui.
Non, Marseille, c'était le couscous clan.
Ouais, ouais.
Et là, c'était tout autre chose, au fond, que le couscous clan. Parce que tout d'un coup, bon, encore une fois, Sofiane, c'est un chanteur de raï. C'est quand même... comment dire, Rachid était plus un chanteur de rock.
Oui, c'était un rocker. C'était un punk, même.
Voilà. Et Sofiane, j'ai découvert aussi que bah il avait ce côté producer très vite à sortir des sons des gazbas algériennes, des purs, une connaissance aussi du raï de toutes les époques, de trucs, une espèce de goût très sûr, très précis. On va droit au but, des boucles, on va boucler une espèce de guimbrie qui
et ça sonne incroyablement bien. Ouais. On va écouter un premier extrait. Le dernier extrait d'autres émissions, mais c'est « Que sera votre vie ?» donc de l'album Mademoiselle.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Que sera votre vie quand le silence entre les sons se remplira de cris. Araye haqli mudel, basit wein rouh balt li nehbel. Araye hawina wein, wein wein dani lay wein. Que sera votre vie quand une heure durera de sept à 8 minutes. Que sera votre vie quand la terre tournera sans vous prendre sur son dos.
Araïa, tu brises à feu, fais tout le boudin, taillard à tour, tu dois à tour, à tel temps. نتكلم في البيان ارايه تبغي تتفلسف تهدر معايا من عقلك تتلف في لا بوليتيك ما عندي لا نحكي خليتها لكم ياك تعرفوا خير مني.
Que sera votre vie quand
تهدر معايا
la gauche essaiera de temps en temps la droite. Que sera votre vie quand l'air sera liquide, l'eau solide, la terre feu.
Araïa, ne brille le hub, le golf, le golf, mal insane, m'rabbi, nous en éclamons.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Rodolphe Burger pour parler de Mademoiselle, son dernier projet, avec deux autres musiciens qui sont incroyables, qui sont exceptionnels. Un Mehdi Adab qui joue du oud électrique comme Hendrix jouait de la guitare, et un grand chanteur de raï qui s'appelle Sofiane Saïdi. Moi, je vous ai vu en concert il y a 3 semaines, un mois, au Trianon. Il y avait quelque chose de très évident, très naturel. Ça sonnait vraiment groupe. On avait juste envie de demander quand est-ce qu'il y a un prochain album et quand est-ce qu'il y a d'autres concerts.
Ben, des concerts, il y en a ouais. Dès le lendemain du Trianon, on a joué à Marseille. Et là, c'était pareil, avec plus de you-you dans la salle. Mais et puis tous les derniers concerts, il y en a eu la semaine dernière, il y en a cette semaine. Là, il y a un truc qui prend.
Oui, ça prend. Ouais.
Et qui parle tout seul, je dirais. C'est vraiment une grande joie de le jouer en live. Alors après, voilà, le prochain album, je ne sais pas, mais pour le moment, on est vraiment là-dessus, quoi. Sur le live, et aussi, je suis très curieux de voir comment ça va se passer en Algérie. On devait y aller, là, ça a été reporté, on y va fin février.
Et vous allez jouer à Alger, Oran.
On va jouer, voilà, on va faire à Oran. Tlemcen, Alger, Annaba et Constantine, je crois.
Ouais. C'est la région de, vous allez jouer dans la région de Racheta.
Oui.
Est-ce que vous sentez sa présence maintenant? Vous jouez sur scène, des fois vous sentez sa présence? Vous retournez, vous attendez à le voir?
Non, mais il est là, quoi. Évidemment, on le cite, les gens le sentent. Je le mentionne à un moment, tout de suite, c'est la
création. Il y a le morceau 1, 2, 3, Viva Algeria, qui lui est dédié.
Bien sûr. Et puis tout le disque lui est dédié.
Oui.
Et puis là, récemment, on a fait une édition du festival que je fais en Alsace. J'ai eu envie de faire le gros tribute, la grosse fête à Rachid. J'ai voulu la faire là-bas, parce qu'il a vécu là-bas.
Ce qu'il faut dire, en fait, c'est que vous êtes de la même région. Ouais. Vous étiez dans la même école, à un an d'écart, je crois. Et vous arrivez à Paris, vous signez avec le même manager, sans le savoir.
Ouais.
Et vous rencontrez après, et vous apercevez que vous venez du même endroit, et vous avez la même histoire.
Ouais.
C'est dingue.
C'est fou. Et du coup, évidemment, ça a un peu renforcé quand même nos liens, parce qu'il est venu du coup souvent au festival, bien sûr. C'est là qu'on a fait un des concerts du Couscous Clan les plus mémorables, dans le bar chez Mehdi, quoi, qui est un des QG du festival. Et ça pouvait être que là, parce que là, j'ai toute liberté de faire exactement ce que je veux, comme je le veux.
Donc, il faut rappeler que c'est toi qui organise ce festival, c'est toi qui l'as créé et c'est toi qui l'organise.
Depuis 20 ans, et là, j'y suis venu très souvent, et là, j'ai pu faire vraiment inviter qui je voulais, des musiciens incroyables. Donc là, on était, je ne sais plus, 12 sur scène, il y avait Justin Adams, il y avait Stevie Lage qui a produit 5 albums de Rachid.
Oui.
C'était une fête incroyable. Et il n'y avait pas que des concerts, il y avait une expo, il y avait une conférence de Jean-Pierre Filu, qui est venu l'historien, quoi, qui est venu nous parler des relations entre l'Alsace et l'Algérie. C'est une histoire très intéressante, qui est au 19e. Enfin, moi, je connaissais des choses, mais là, grâce à lui, on a pu en savoir plus. Donc voilà, on a essayé d'élargir le propos, quoi.
Et ce qu'il faut dire pour les gens qui nous écoutent, c'est que, je sais pas, des fois on mesure pas à quel point Rachid Taha était un artiste international, mondialement connu, énorme, qui vendait beaucoup et qui était. Je sais que Jimmy Page, donc le guitariste des Led Zeppelin, est venu le voir pour lui demander un autographe. Ouais. Et je sais que Mick Jones des Clash est venu le voir en disant ta reprise de Rock the Casbah est meilleure que le morceau original.
Ah oui.
Et il a joué avec eux. Ah donc c'est pour dire l'ampleur du musicien.
Absolument, mais moi j'ai eu cette chance aussi de vraiment d'être témoin de ça, parce qu'on a joué ensemble avec Mick Jones plusieurs fois. On a joué à Rome, on a fait un concert incroyable avec Mick Jones. À la Villa Médicis, c'est improbable. Mick Jones est halluciné, quoi. Dis le punk rock, m'amène là, quoi. Et j'ai joué en Angleterre avec Rachid. Moi, j'avais jamais joué en Angleterre. C'est grâce à Rachid que j'ai pu jouer en Angleterre, tu vois. Et c'est formidable, parce que autant, les Anglais, ils peuvent être un peu, tu vois, le condescendant avec les Français. Une fois que tu es en face, tu joues de la guitare dans un public d'Anglais, c'est dingue. La guitare, c'est je sais pas, enfin, j'ai jamais eu cette sensation d'un public entier qui comprend. Parfait. Enfin, tu vois, on parle la même langue, quoi. C'était magnifique. Et on a fait, justement, Rock the Casbah au Barbican. On a fait lever tout le Barbican avec les premiers accords de Rock the Casbah.
Ouais, c'est évident.
Et pour les Anglais, Rachid était un rocker. Il n'était pas question de musique du monde spécialement, tu vois. C'était vraiment... Mais j'ai joué avec lui à Sarajevo. C'était le seul artiste que tout le monde connaissait. J'avais Jacques Higelin, personne ne connaissait. Mais Rachid, oui...
Et donc, tu joues vraiment maintenant avec qui tu veux, parce que tu joues avec des musiciens ouzbeks, tu joues avec des gens qui, soi-disant, ont un problème mental, donc avec Colors Divisions, qui sont qui est excellent, avec d'autres personnes. Tu joues avec des artistes, une chanteuse israélienne qui chante un poète palestinien. J'ai l'impression que il y a pas de limite. Tu peux te permettre tout ce que tu veux. C'est lié à cette indépendance que tu as acquise, récemment, au cours de toutes ces années-là de cheminement.
C'est l'enjeu de toute mon histoire. Ça, c'est vraiment au-delà de la musique. D'ailleurs, c'est vraiment à travers la musique que j'ai l'impression de pouvoir faire des expériences comme celle-là, mais aussi le festival, c'est ça qui me motive, le label aussi.
C'est plus les rencontres finalement que le résultat ou
non, ça va te perdre, mais c'est quand tout d'un coup une rencontre se met à raconter sans qu'on ait besoin forcément de de notes de bas de page, tu vois, qui est quelque chose d'évident, qui se raconte et qui va au-delà. Oui, on n'est pas ni dans un simple divertissement, ni dans une jouissance esthétique. On est dans autre chose, on partage autre chose. Et le festival, par exemple, là, la dernière édition, c'était vraiment ça, quoi. Pour le public, du coup aussi les artistes, quoi, à la même hauteur, il y a pas non plus, on n'est plus non plus dans cette chose.
Et là, on est dans une actualité un peu douloureuse, hein, on le sait, en Palestine, le conflit avec Israël. Tu crois que tu pourrais jouer là en ce moment ce que tu as fait, le Cantique des Cantiques en hommage à Darwish avec Rosenthal?
Bah, écoute, il en est question, on va le faire. Moi, je pense que je jouerai tous les jours là. Hein, après, pouvoir le faire, c'est une autre affaire.
C'est ça. Qui accepterait de produire ça, de défendre ça?
On a eu quand même des mésaventures avec ce projet. Enfin, on a pu mesurer avant même ce qui se passe maintenant. Mmh. C'était un sujet tellement... ça nous est arrivé de part et d'autre. C'est-à-dire, on a joué à la cathédrale de Reims, par exemple. Et là, on a eu protestation d'associations juives. Comment pouvez-vous mettre côte à côte un texte sacré, Cantique des Cantiques, et un poème d'un militant de l'OLP, Mahmoud Darwish, sous-entendu un terroriste. D'autre part, quand on a joué à Tanger, alors là, ça a été la peur de notre vie quand même, avec Root, donc un spectacle annoncé comme Cantique des Cantiques, hommage à Mahmoud Darwish, on arrive sur scène avec Root, quelques mots d'hébreu, et on entend un hurlement en arabe. Donc on s'interrompt immédiatement, c'est-à-dire tout de suite tu as des images, tu vois des Kalachnikov, enfin, tu vois, ça se met à hurler de partout, etc. C'était un Palestinien syrien qui pétait les plombs parce qu'il entendait de l'hébreu dans un cadre contexte de hommage à Darwish. Donc Wael, qui est lui Palestinien de Beyrouth, qui se faisait traiter de collabo par il est allé lui parce qu'il était exfiltré, le mec. Nous on a continué. Après, Wael est allé le retrouver et a parlé pendant des heures dans un bistrot pour lui expliquer la vie, pour lui dire que Mahmoud Darwish connaissait le Cantique des Cantiques en hébreu par cœur, qu'il parlait lui-même hébreu, que sa maîtresse préférée était israélienne, etc. Voilà, mais on voit que là, c'est épidermique, quoi. C'est un truc. Donc là, je ne sais pas, oui, il est question qu'on le fasse à Marseille.
Je crois que c'est bien de terminer là-dessus, sur le fait que la musique peut quand même, a quand même un sacré pouvoir et que c'est peut-être pas notre plus faible moyen de riposter. En tout cas, l'œuvre tout entière et le travail de Rodolphe Burger le prouve, et surtout Mademoiselle, qu'il faut absolument écouter, et aller voir Mademoiselle en concert. Voilà. Je remercie beaucoup Enrico Maestro Giovanni, qui est derrière la vitre. Je remercie Yves Tanret, qui nous a accueillis dans cette émission La Vie est un roman sur Aligre FM 93.1. Merci.
Merci à vous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.